On va aller rejoindre Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est là. Salut Nick, comment ça va?
Salut tout le monde, ça va super bien, vous autres?
Ah, des fois je me pose des questions parce que toi et moi, puis toute notre gang, on regarde un peu où notre argent va, où vont nos impôts. Puis ce matin, dans le pit stop, je parlais avec Denis des habitations temporaires à Montréal pour ce qui est des gens qui sont sans logis. Et tu comprends qu'on est très sensible à l'égard des gens qui sont sans logis parce qu'il faut les aider, ces gens-là. Et la gang du bureau d'enquête ont fait des recherches à savoir, bon, on met des gens dans des habitations temporaires. C'est des gens de... Écoute, c'est comme des cabanes de construction là, qu'on met dans un stationnement. Puis là-dedans, ben, il y a de l'électricité, il y a de la plomberie. Puis on a payé ça quand même une bonne petite fortune. Et quand on fait le calcul avec la gang de Québécois, ça revient à peu près par personne là, pour les loger dans une chambre avec une douche, une toilette, puis un petit bureau, puis un petit lit simple. Ça revient à 2 600 $ par mois pour loger chaque personne. Et je te rappellerai que c'est pas un édifice que la ville a acheté là, qui va faire en sorte que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, cet édifice-là va avoir pris de la valeur. C'est des roulottes de chantier qui, au 10 ans, va falloir que tu changes ça. 2 800 $, entre 2 600 et 2 800 $ par mois pour loger chaque personne. Puis c'est pas, tu sais, il n'y a pas d'organisme communautaire ou d'experts qui vont être greffés à ça, qui sont impliqués dans ces coûts-là. Mais 2 600 $ pour loger ces gens-là, ça aurait pas été plus simple d'acheter un édifice puis de transformer ça en immeuble avec juste des chambres à l'intérieur?
Ouais, fort possible, parce qu'on voit clairement qu'il n'y a aucune vision à long terme là, quand tu dis que c'est pour des installations temporaires qu'on est prêt à dépenser pas loin de 2 600 $ par place. Je veux dire, c'est l'équivalent de ce qu'on paierait, par exemple, à Montréal pour un condo sur une base mensuelle ou à peu près n'importe où au Québec. Là, c'est quand même un montant significatif. Mais comme tu l'as dit, c'est des installations qui sont temporaires, donc elles vont être éventuellement démantelées. Et on ne parle pas non plus d'un nombre assez important. Là, on parle quand même d'à peu près juste 60 places, mais jusqu'à maintenant, je pense que le coût approximatif, on parlait d'environ 5,5 millions de dollars. Donc, effectivement, on aurait peut-être pu penser sur un peu plus à le long terme, avoir une installation, avoir un building qui serait adapté, qui pourrait continuer à recevoir à long terme d'autres personnes en situation d'itinérance. Mais ça démontre à quel point la plupart des villes au Québec, malheureusement, ont des stratégies, en fait, par rapport à l'itinérance qui sont axées sur le très court terme. Donc, on va effectivement se concentrer sur des installations temporaires, puis parce qu'on n'a pas le choix, parce que la plupart comment dire, des refuges débordent, si on le sait, depuis quand même un bon moment. Mais en contrepartie, la solution temporaire est quasiment plus coûteuse qu'une solution permanente, où
Exact.
est-ce qu'on aurait pu penser à des installations qui auraient été plus durables. Fait que c'est pas la première fois qu'on voit ça, tristement, c'est pas la dernière fois qu'on voit ça. On l'avait vu aussi, entre autres, avec les demandeurs d'asile aussi, où est-ce qu'on avait une situation similaire, où est-ce que le coût d'hébergement était quand même assez important. Alors que, bon, c'était dans des hôtels, alors qu'on aurait pu avoir des installations un peu plus adaptées et peut-être même plus sécuritaires pour recevoir ces gens-là. Donc, au final, oui, c'est quand même beaucoup d'argent. Mais ça, comme je dis, c'est difficile de s'opposer à ce genre de dépenses-là parce qu'il n'y a personne qui va s'opposer à ce qu'on vienne en aide aux itinérants, mais je pense qu'il devrait avoir une vision beaucoup plus sur le long terme que ce qu'on voit présentement,
Ben
là.
c'est parce que l'argent sort à l'externe plutôt que la garder chez vous, dans ta ville. T'sais, si tu investis dans un immeuble, c'est quelque chose qui, à long terme, va te revenir. Tandis que là, des roulottes de chantier, au bout de 10 ans, tu vas envoyer ça à scrap, tu vas en racheter des nouvelles. Mais 2 600 à 2 800 $ par mois pour loger chaque personne, c'est très cher. Puis à Québec, on a le même genre de projet, là, il doit être un peu différent. Là. Peut-être que Jeff est un peu plus au fait du projet, mais dans le secteur de Destimoville, on a 3 conteneurs. Et on a mis 2 personnes par conteneur, puis on a transformé ça en des petites chambrettes avec un peu d'électricité puis un peu de plomberie. Et on a un lit simple avec un petit bureau, puis la toilette, bien entendu, puis la douche. Et ça coûte 108 000 $ par porte et il y a 2 portes par conteneur. Ça veut dire, par conteneur modifié, là, pour 2 chambres, c'est 216 000 $. Puis encore là, dans 10 ans, ça va être à refaire tout ça, là. On gagne absolument
Ben oui.
rien à agir de cette façon-là.
Et Nick,
C'est
est-ce que... C'est...
quasiment le coup. Oui,
ouais, ben, est-ce que c'est pas problématique aussi de ce qu'on commence à voir avec le gouvernement? Puis je m'explique, on est rendu avec des écoles modulables, on veut faire des centres de soins modulables pour les logements, on veut y aller encore plus dans le préfabriqué. Mais à investir comme ça sur des biens à court terme qui perdent en valeur, on va y perdre au change.
Ben, c'est sûr qu'on y perd aux chances. Puis le problème, c'est quand on investit sur du long terme, comme on le voit avec, par exemple, les écoles comme celle qui va être construite dans le coin de Québec, là, pour loin d'un demi-milliard pour la construction totale, ben, on se rend compte qu'on a des dépassements de coûts qui sont assez phénoménales. Fait que d'une part, soit on paye cher pour du court terme, soit on paye extrêmement cher pour du long terme. Donc, il devrait y avoir une demi-mesure là-dedans. Mais oui, quand on tombe dans le préfabriqué, effectivement, on se retrouve souvent à se tourner vers des contractants, à louer ces installations-là. Donc, il y a un coût qui est, comment dire, un coût que vous devez faire pour faire l'installation, puis un coût après ça pour continuer à réserver ces installations-là. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent qui sort pour au final avoir des installations qui sont relativement désuètes. Mais on s'entend que pour, par exemple, un container à 200 000 $ ou à 100 quelques mille, peu importe, le coût, c'est quand même un petit peu, je veux dire, on est à côté de la traque.
Ben
Fait qu'à
oui,
moi, ça
ben
coûte
oui.
beaucoup trop cher pour ce que c'est réellement. Ceci étant dit, encore une fois, c'est toujours pour répondre à une problématique qui est réel.
Oui.
Il n'y a personne au monde qui va vraiment s'obstiner avec le fait qu'il faut qu'on ait plus de logements, qu'on ait des logements adaptés pour les personnes en situation d'itinérance. Le problème étant toujours à chaque fois qu'on a des visions vraiment axées sur le court terme, où est-ce qu'on se dépêche d'avoir ces installations-là, on ne garde pas le coût, puis après ça, on se revient devant en disant, mais finalement, c'est une poignée de place, ça nous coûte des centaines de milliers de dollars et ça résout pas le problème à la fin de la journée, là.
Et toujours dans les dossiers qui nous réjouissent, pas nécessairement, dans le secteur de Québec, on est en train de bâtir un pont pour les gens de l'île d'Orléans parce que le vieux pont est magané, il faut en bâtir un autre à côté. Puis on apprend ce matin qu'il y a déjà des dépassements de coûts alors qu'il y a juste les pylônes qui ont été mis. On parle de 25 millions de dollars là, qu'on ajoute sur la facture pour la conception et la construction du nouveau pont de l'île d'Orléans. On dit que la valeur du contrat dans le Journal de Québec est pour le groupe Héritage Orléans, qui est en effet passé de 1,856 millions à 1,881 millions de dollars dans le système d'appel d'offres. Donc, tu comprendras que la CAQ s'est pas vantée de ce dépassement de coûts-là, mais on peut penser que la fameuse enveloppe globale pour le pont qui va servir à 7 000 personnes à l'île d'Orléans va dépasser le 2,7 milliards de dollars qui avait été prévu à cet effet-là.
Effectivement, c'est un énième dépassement de coût. Je pense que c'est quelque chose à laquelle on est un petit peu trop habitué au Québec. C'est quasiment la discussion qui revient constamment quand on parle d'un chantier informatique ou d'un chantier de construction. Malheureusement, c'est toujours le cas. On sait aussi, par exemple, je compare souvent avec le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal, où est-ce qu'on est rendu avec une facture qui a quasiment explosé de 100 %. On est rendu dans les 2 milliards pour rénover ce tunnel-là. Là, on voit présentement que le pont pour l'île d'Orléans, lui, va coûter 2,7 milliards, pardon, 25 millions de dépassement. C'est quand même pas négligeable, c'est pas non plus un montant qui nous fait tomber de notre chaise, mais ça nous annonce qu'il risque d'avoir d'autres dépassements de coûts. Puis, moi, être honnête, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, en fait, de tous ces dépassements de coûts-là, parce que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois, tu sais, vu qu'on est tellement habitué, on s'offusque de moins en moins par rapport à ça. J'aurais espéré qu'un jour, il y aurait une sorte de changement de politique par rapport à ça, surtout par rapport à la manière que les appels d'offres sont effectués. C'est-à-dire que c'est pas normal que les contribuables doivent assumer constamment les dépassements de coûts. Par exemple, je connais des gens qui sont entrepreneurs dans la peinture résidentielle ou ce genre de choses-là. Quand ils font des contrats, c'est le montant qui est établi à la fin, au bas de la vente, ben c'est le montant final. Si ça leur prend une journée de plus faire la job, si ça leur prend plus de peinture, si ça leur prend plus d'équipement, plus de personnes, je donne ça en exemple, ben c'est eux qui vont devoir assumer le dépassement de coûts de leurs propres opérations. Mais ben pourquoi quand nous, on fait construire un pont au Québec ou la moindre infrastructure, ben c'est plutôt, encore une fois, le client qui doit assumer les dépassements de coûts quand on parle quand même de factures qui sont dans les centaines de millions, voire milliards. Ben
On
ça
a
fait aucun
entendu
sens à mes yeux.
le premier ministre du Québec hier, à Tout le monde en parle, dire dans le dossier Saclic que c'est les libéraux qui avaient signé les contrats et que dans ces 10 contrats-là, c'était bien expliqué que s'il y avait les dépassements de coûts, ben ce serait le gouvernement du Québec qui paierait ces dépassements de coûts-là. Il devrait y avoir une entente là, avec ces entreprises-là.
Mais Nick, une des problématiques, c'est qu'on est dans une culture dépensière. T'sais, je regarde 100 milliards de déficit au fédéral. Je regarde au niveau de la gouverneure générale qui se refait une garde-robe à nos frais. On est dans des élections municipales où on promet des grands projets dans les municipalités, mais qui vont faire augmenter énormément les comptes de taxes. On est encore dans cette philosophie-là au Canada et au Québec, malheureusement.
Ben, oui, malheureusement, puis surtout que ce qui est triste, c'est que, ben, on va se dire franchement, en période électorale, parler de rigueur budgétaire, c'est jamais très populaire. Puis ça, je l'avais déjà répété à plusieurs reprises, même que j'avais dit que je serais très surpris que François Legault s'engage à faire un ménage dans les finances publiques dans la dernière année de son mandat, parce que généralement, c'est pas là qu'on fait le ménage, c'est au début, puis après, on distribue les cadeaux. Là, je pense, là, j'ai hâte de voir comment est-ce que les choses vont se faire dans son cas, surtout considérant son niveau de popularité. Mais oui, on est dans une tendance extrêmement dépensière, tant à Québec qu'à Ottawa qu'à Montréal, ou plutôt au niveau municipal à Québec. Donc, dans tous les cas, on promet, on dépense davantage. On parle pas tant de rigueur que ça. Puis même quand on parle de rigueur, comme tu l'as mentionné à Ottawa, on se promet un budget d'austérité le 4 novembre prochain, mais on annonce un déficit de 100 milliards qui est de très loin plus élevé que ce qui était promis initialement dans les promesses électorales, les promesses plutôt le cadre budgétaire de Carney durant les dernières élections. C'est même plus de dépenses que ce qui était promis par Justin Trudeau, son prédécesseur, qui était apparemment le premier ministre le plus dépensé de l'histoire. Donc, c'est dur à suivre à un moment donné.
On va terminer là-dessus, Nick, si tu veux bien, mais avec la Fédération canadienne des contribuables, avez-vous l'impression, tu suis ça au day-to-day, as-tu l'impression que Mark Carney va augmenter la TPS?
C'est la dernière des choses qu'on a besoin. En fait, ça, c'est sûr et certain que dans le cadre là, surtout de la guerre commerciale dont on connaît le contexte depuis un bon moment, la dernière des choses qu'on a besoin, c'est de rendre notre économie moins productive et nos entreprises moins concurrentielles. Donc, ce serait possiblement la pire des approches qui puisse être faite. Ceci étant dit, s'il doit absolument couper dans les dépenses, c'est pas mal la seule axe qu'on peut, où est-ce qu'on va être d'accord avec pour l'instant, c'est ce qu'il a proposé. Donc, lui, il propose de réduire, entre autres, la taille de la fonction publique par attrition. Nous, on trouve que c'est pas du tout assez. Mais au moins, ça va dans la bonne direction. Mais de parler d'augmentation de TPS ou d'une augmentation de quelconque forme de taxe ou d'impôt à ce stade-ci, ça serait extrêmement contre-productif pour l'économie canadienne. Déjà qu'on est sur le bord d'une récession, déjà que la guerre commerciale fait en sorte qu'on perd beaucoup de contrats. Nos entreprises sont pris entre l'arbre et l'écorce. Soit on s'en va aux États-Unis puis on déplace notre production ailleurs, soit on ralentit notre production ici. Donc, une augmentation de la TPS, là, ça serait la dernière des choses qu'on a besoin à ce stade-ci.
Ah, ta job doit être complexe, Nick. Des fois, tu dois te demander, faut-tu que je regarde dehors pour voir le soleil, les petits oiseaux, les étoiles le soir, parce
Ah,
que t'es
pour...
tout le temps dans un dépassement de coûts à surveiller ça, puis éplucher des dossiers. Ça doit pas être facile à la Fédération canadienne des contribuables tout le temps pour vous autres.
Ben, psychologiquement, non, mais pour le reste, c'est quand même job le fun, on s'entend. T'sais. Là, j'essaie de me convaincre qu'il faut que le 4 novembre prochain, je sois à Ottawa pour aller regarder le budget sur place. Comme vous le savez, nous, on se déplace pour se rendre directement au huis clos budgétaire, que ce soit à Québec ou à Ottawa, ou dans les autres provinces également. Donc, on va devoir suivre ça sur place, puis on va être dans une petite pièce cloîtrée avec des journalistes, avec d'autres analystes de politique publique, puis on va tous devenir dépressifs en rouvrant tranquillement le budget fédéral de Mark Carney. On espère honnêtement qu'il y aura moins de mauvaises nouvelles que ce qu'on présage pour l'instant. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça commence à devenir lourd, sauf qu'il y a toujours de l'espoir, puis on s'assure de continuer à se battre pour les contribuables coûte que coûte.
Ah, c'est toujours un plaisir, Nick, puis on invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur la Fédération canadienne des contribuables à aller directement sur votre site web contribuable avec un S.ca, contribuable avec un S.ca.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à toi, on se reparle la semaine
Salut!
prochaine. Bye bye. Ah, le temps de vous parler de notre poule qu'on a ici à la station. Le hockey commence. Ça commence
Oh
ce
que
soir. Des
oui!
matchs préparatoires.
Canadien
Canadien qui
pingouin
joue
ce
ce
soir.
soir.
Il y a eu quelques matchs en fin de semaine, mais c'est la grande rentrée pour le Canadien.
Sid de Kid, es-tu là?
Je ne sais pas, j'ai pas vu si Sidney va être là. Peut-être que ce serait surprenant, c'est le premier match sur concours.
Un échange en plein milieu du match, là, entre la 2 et la 3.
Avoir y a le kid à Montréal.
Comme dans l'an 50.
Ouais.
Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'encore une fois, Boulevard 101 fait équipe avec la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria sont toujours là pour embarquer dans nos délais. On veut créer le plus gros pool de hockey de la saison 2025-2026. Donc, rendez-vous au blvd.fm pour cliquer sur l'hyperlien menant directement à notre pool sur marqueur.com et le grand gagnant du pool va être annoncé en avril. À la fin de la saison régulière, il va remporter 500 $ de la fromagerie Victoria. Pas besoin d'être un pro des statistiques avancées pour participer. Tu as juste à vouloir te battre avec tes chums ainsi que Max Larouche. Si tu bats Max Larouche, ça se peut que je te paye une poutine de plus. Expert ou pas, donc tout connaisseur, inscrivez-vous sans complexe. On va regarder ça tout au long de la saison. Restez à l'affût de nos réseaux sociaux aussi. On va faire un gagnant chaque mois. d'une carte cadeau de 200 $ à la fromagerie Victoria parmi notre top 25 du pool. Et en plus du grand prix de 500 $ de fromagerie Victoria qui va être offert au grand gagnant à la fin de la saison régulière, parce que de la bonne poutine et du bon hockey, ça va vraiment ensemble. Donc, bonne chance à tous. Vous en aurez besoin pour espérer mettre la main sur le 500$ chez Fromagerie Victoria. Familial depuis 75 ans. Donc, vous allez sur le site blvd.fm et tu cliques sur l'hyperlien pour participer. On s'arrête, on revient.
Marceau le matin. Marceau le matin.